raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une affaire criminelle passionnante. Un quadruple meurtre commis en 1995 dans la région de Lyon à Saint-Andéol-le-Château. Passionnante par la psychologie de l'assassin qui tue quatre membres d'une même famille, les Bébiens, le père, poum, la mère, poum, le fils, la fille, poum, poum. Tout l'accuse, tout. Mais il est incapable d'avouer, par narcissisme. Une affaire que je débrieferai tout à l'heure avec maître Frédéric Laliard, avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire commence par un incendie. Le 30 mai 1995, vers 6h30 du soir, un pavillon du lotissement Le Trimolin à Saint-Andéol-le-Château près de Lyon, dans le Rhône, est en flammes. Les voisins sont alertés d'abord par la fumée et puis par une explosion. Ils appellent tout de suite les pompiers. Oui, les pompiers, la maison des voisins d'en face est en feu. C'est chez les Bébiens, au Trimolin. Venez vite. Les pompiers arrivent très vite. Quand ils débarquent, le pavillon est dévoré par les flammes. Les fenêtres ont été soufflées. La toiture a commencé à s'effondrer. Il leur faut plus d'une heure pour maîtriser l'incendie. Et les gens sont là autour, les voisins, très inquiets.
Oh, mais t'as vu, il y a leur voiture garée devant. Et le scooter de la petite Aline, c'est terrible. Il devait être dedans.
Là-dessus arrive Samantha, la fille aînée des Bébiens, les propriétaires du pavillon. Elle habite pas loin. Elle est en larmes. Et elle attend le verdict. Les pompiers entrent dans la maison. Ils vont d'abord jusqu'à la chambre du fond et ils découvrent un premier corps étendu sur le lit.
C'est une femme. Ça doit être la mère.
C'est bien la mère, Odette. Odette Bébien, 46 ans. Et dans la pièce d'à côté, ils trouvent le père, 47 ans. Et ensuite, le fils, 21 ans, mort lui aussi. Ils vont tout de suite prévenir Samantha, la fille aînée qui attend dehors.
Et Aline, ma petite sœur, vous l'avez pas retrouvée?
Et là-dessus, Samantha tombe dans les pommes. Et quand elle reprend connaissance, elle apprend qu'on a finalement retrouvé Aline, morte comme les autres. Elle avait 19 ans. Ses parents, son frère, sa sœur, elle a perdu tout le monde. Tout le monde. Mais comment se fait-il que ces gens n'aient pas réussi à s'enfuir? À 6h30 du soir, tout le monde était réveillé. Et on n'est pas dans un immeuble, on est dans un pavillon. Alors que un ou deux occupants soient restés prisonniers des flammes, d'accord, mais quatre adultes. Il suffisait d'ouvrir une fenêtre et de sauter. Le parquet de Lyon ouvre immédiatement une enquête. Les gendarmes débarquent sur place. Et d'emblée, une odeur leur saute aux naseaux.
Ça sent l'essence, non? Tu trouves pas?
Oui, ça sent l'essence. Et dans le couloir, les gendarmes tombent sur trois jerrycans rouges. Ils sont en partie fondus, mais pas d'erreur possible, ce sont des bidons. Donc, c'est un incendie volontaire. Et donc, c'est un quadruple meurtre.
T'as vu le corps du père? Il a la veste et la chemise remontées sous les aisselles. On a dû le traîner, hein, par les pieds.
C'est un quadruple meurtre, et ça se confirme quand le légiste débarque sur place.
Ils ont tous été tués par balle, hein, vos clients? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A priori, le père a pris 8 balles. 8 balles dans le buffet.
Et la mère a pris 1 balle dans la tête. Et la fille, idem. Quant au fils, il a pris 3 balles, dont 2 dans la tête. Et quand le légiste déplace les corps, dessous, il tombe sur des douilles.
À vue d'œil, hein, comme ça. Je pense que c'est du 22 long rifle, hein.
Et là, deux hypothèses. Ou la tuerie est le fait d'un tiers, ou elle a été commise par l'un des membres de la famille qui s'est ensuite suicidé.
Sauf que dans ce cas-là, on devrait retrouver la carabine, quelque part, près de l'un des corps. Les gendarmes retournent la maison, ils ne trouvent pas de carabine 22 long rifle. Donc ça n'est pas un drame familial. Donc c'est une tuerie. Les quatre corps, évidemment, sont autopsiés. Aucun ne présente de traces de lutte. Ils ne se sont pas défendus. Pas non plus de fractures ou de traces de violence sexuelle. Et quelques étrangetés. Le corps de la mère, par exemple, ne présente qu'un seul trou dans le crâne. Mais quand le légiste ouvre la boîte crânienne, il trouve trois balles, qui ont donc été tirées dans le même axe. Pan, pan, pan. Quant à la fille, elle n'a pris qu'une balle, mais à l'arrière de la tête. Elle a été tuée par surprise. C'est évident. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Lyon, qui commence par un grand classique, c'est-à-dire une enquête de voisinage, pour s'entendre dire, comme souvent, « Les Bébiens ? Bon ben les Bébiens, c'était une famille normale, quoi. Sans histoire, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. » Lui était cadre commercial, elle était infirmière de nuit depuis toujours. La veille, elle avait pris son service à 19h jusqu'à 7h du matin. Le fils était magasinier dans un supermarché. Lui, normalement, il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû être au boulot, mais il avait posé son après-midi pour aller assister à un match de foot. Quant à la fille, elle était lycéenne. Elle avait terminé sa journée de cours. Bref, entre la mère qui travaille la nuit et le père le jour, le fils qui n'a bossé que le matin et la fille qui est rentrée du lycée le soir, pour les tuer tous les quatre, il fallait connaître leur emploi du temps. Et donc il fallait bien connaître les Bébiens. Et donc d'entrée, les gendarmes se mettent sur la piste d'un proche, d'autant que les voisins disent que le chien de la famille, Duc, un molosse qui est toujours enchaîné à un arbre à l'ancienne près du portail, n'a pas aboyé.
Oui, et pourtant, je peux vous dire qu'il essaie de passer n'importe qui.
Si Duc n'a pas aboyé, c'est qu'il connaissait le ou les tueurs. Et donc, une piste familiale. Auquel cas, ça va pas être du gâteau, hein, parce qu'à eux deux, le couple Bébien compte pas moins de 22 frères et sœurs. Une autre piste s'ouvre assez vite. Elle est liée au fils Vincent Salvatore, 21 ans. Qui fait partie des victimes. Je vous ai dit que le jour du massacre, il avait posé son après-midi pour aller assister à un match de foot. Vincent était un fan de foot, un supporter de l'Olympique Lyonnais, membre de l'association des supporters, les Bad Gones. Une association, disons, pas très fréquentable, en tout cas à l'époque, un peu facho, quoi. Et d'ailleurs, très vite, il apparaît que Vincent était raciste et que sans doute il a participé à des ratonnades. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher de ce côté-là? Et puis toujours au sujet de Vincent. Les gendarmes apprennent que depuis peu, il était papa. Un bébé né en avril, conçu avec la sœur d'un copain supporter, mais qu'il n'a pas voulu reconnaître. Il aurait dit au père de sa copine, « J'en ai rien à foutre ». Ça aussi, ça ouvre une piste. D'autant que les parents bébiens avaient soutenu le fiston. Une vengeance. Les gendarmes vérifient, ça ne débouche sur rien. Ensuite, il est question d'une piste tunisienne.
Bon, ben vous devriez chercher de ce côté-là. Hein. Moi, je sais qu'ils allaient souvent en Tunisie et qu'ils avaient un ami tunisien. Est-ce qu'avec lui, ils faisaient pas du trafic? Vous devriez vérifier.
On vérifie, tout ça n'est que baliverne. Alors, faute de piste, les gendarmes se rabattent sur du classique. Établir le plus précisément possible la chronologie des faits. La mère d'abord, Odette. Elle a travaillé toute la nuit à l'hôpital. Quand elle rentre, elle va se coucher, comme d'habitude, de 8h jusqu'à midi. Le père a pris une pause déjeuner vers midi. Il a dû arriver chez lui vers midi et quart, midi 20 au plus tard. Le fils a quitté le supermarché où il travaille à midi 3 précisément. On le sait grâce à la pointeuse. 10 minutes pour aller jusqu'à chez ses parents. Il a dû arriver vers midi 10, midi et quart. Et d'ailleurs, c'est confirmé par un voisin. Il l'a vu rentrer. Quant à la fille, Aline, elle a terminé ses cours au lycée à 17h. Elle est rentrée en bus, elle a dû arriver aux alentours de 17h30. On a retrouvé son corps derrière la porte de la maison, ce qui laisse penser qu'elle a été tuée dès qu'elle a passé le seuil. Les balisticiens pensent que le tireur se cachait dans la cuisine. Et donc le scénario qui se dessine est le suivant. Le tueur commence par tuer la mère pendant son sommeil, et donc avant midi, puisqu'on l'a retrouvée dans son lit. Ensuite, il attend les autres un par un. Le père, quand il rentre à midi et quart. Ensuite, le fils. Et ensuite, il attend 5h30, le retour de la fille, pour la tuer à son tour. Sacré sang-froid, hein ? Le type est capable d'attendre une après-midi entière les membres de la famille pour les éliminer un par un. C'est là que les voisins, encore eux, racontent aux gendarmes qu'ils ont vu quelqu'un devant la maison en tout début d'après-midi, le jour du crime.
Vers, je dirais, 1h30, 2h. Il était là avec son Walkman sur les oreilles. Il attendait. On l'a reconnu, hein, c'est un copain du fils, Christophe qui s'appelle.
Un ami du fils. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il faisait là? Les gendarmes se rencardent auprès de son lycée.
L'après-midi, il a séché. Il n'est pas venu.
Les gendarmes vont tout de suite l'arrêter et ils le placent en garde à vue.
Alors, jeune homme, que faisiez-vous devant chez les Bébiens le 30 mai?
Ben, j'avais rendez-vous avec Vincent. Je suis venu vers 13h. Le portail était ouvert et les deux voitures étaient là. Et il y avait Duc, le chien. Il m'a fait une fête.
Ah, vous êtes un familier du chien, alors?
Ben oui. Ben c'est moi qui le nourris quand il part en week-end ou en vacances.
Et donc, jeune homme?
Ben, à un moment, je suis allé toquer à la porte. Personne n'y a répondu. Je suis resté un bon moment à attendre et puis j'ai fini par m'en aller, quoi.
À ce moment-là, le père, la mère et le fils sont déjà morts. Seule la fille Aline est encore vivante. Elle n'est pas encore rentrée du lycée. Elle ne rentrera qu'à 17h30. Or, à 17h30, il s'avère que Christophe n'est plus là. On vérifie, il a un alibi en béton. Et donc, il est mis hors de cause et relâché. Et voilà, les gendarmes se retrouvent à nouveau sans piste. Le 6 juin, ont lieu les obsèques de la famille Bébien. Les 4 cercueils arrivent à l'église, tout le village est là. Et les gendarmes aussi, je préfère vous le dire, il y en a même qui planquent sur les toits avec des appareils photos. Clic-clac Kodak, ils surveillent les proches, chacun de leurs gestes. Et évidemment parmi les proches, celle qui est au centre de toute l'attention, c'est Samantha, la survivante, la seule Bébien qui reste.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. La paix soit avec vous.
Et avec
votre esprit. Samantha est au premier rang. Elle est au bras de son mari, Eric. Et ce qui surprend tout le monde, figurez-vous, c'est qu'elle est en mini-jupe. On est à deux doigts de lui voir la culotte. Aux obsèques de ses parents, de son frère et de sa sœur, une mini-jupe. Et puis lui, là... Son mari, là, il a l'œil bien sec. Pas une larme, pas un petit sniff-sniff, rien. Froid. Et les gens le voient, ça. Et quand c'est fini, après l'inhumation, ça cancane. Entre la mini-jupe et l'œil sec du mari, il y a de quoi se mettre sous la dent. Et il n'y a pas que ça. Samantha. Entre la tuerie et les obsèques, figurez-vous qu'elle a fêté l'anniversaire de sa fille. Joyeux anniversaire, en plein deuil. Et lui, là, son mari, Eric Bruyas, dans la semaine qui a suivi les meurtres, il a débarqué à la mairie pour réclamer des attestations de décès. Et vous savez ce qu'il a dit à la secrétaire?
C'est-à-dire qu'avec ce qui vient de se passer,
C'est pour annuler la ma réservation au camping l'été prochain, là. Et je veux récupérer mon acompte, quoi, vous comprenez? Eh ben non. On ne comprend pas. Il pouvait pas attendre. C'était si urgent. Tout ça pour dire que faute de mieux à se mettre sous la dent, les gendarmes ont désormais la fille, la survivante Samantha, et son mari Eric dans le viseur. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce duo? Ils sont mariés depuis 6 ans, dans cette même église de Saint-Andéol. C'était un peu urgent, Samantha était enceinte à 17 ans. Depuis, elle a eu 3 enfants. Ils habitent à Givors, à 10 kilomètres de Saint-Andéol. Lui a liquidé une entreprise l'année dernière, il vient tout juste d'en ouvrir une autre, il fabrique des portails métalliques. Et elle est femme au foyer. Ils ont une maison, ils vivent en colocation avec un ami d'Eric. Voilà. Si, il y a un détail qui peut avoir son importance. Quand Eric a créé sa boîte de portails, son beau-père lui a prêté 30 000 francs. Pour l'aider, quoi. Il l'aimait bien, son gendre, le père Bébien. D'après ce que disent les gens, il le considérait un peu comme son second fils. J'en ai encore une bien bonne à vous raconter. Le gendre, là, Eric Bruyas. Les gendarmes découvrent que juste après la tuerie, il est allé voir l'assureur de ses beaux-parents.
C'est pour savoir. Quand est-ce que vous allez payer?
Payer quoi, monsieur?
Bah, pour la maison. Oh là là! Pour un sinistre de cette importance, on va pas payer sous 8 jours, hein, monsieur. Faudra faire passer des experts, ça. Ça va être long, hein.
Les gendarmes apprennent aussi que le gendre a contacté une amie des Bébiens.
Il m'a demandé si j'avais des photos de l'intérieur de la maison pour les montrer à l'assurance.
Et comme elle n'en avait pas, il a fait lui-même des dessins, pièce par pièce. Il a tout représenté, les meubles, l'électroménager, la décoration. Et avec Samantha, ils ont fait la liste de tout ce qui avait brûlé. La vaisselle, les bibelots, les bijoux et même les soutiens-gorge de la belle-mère avec leur prix. Ils en ont fait tout un petit dossier, et 10 jours après la tuerie, ils sont allés le remettre à l'assureur. Des gens ravagés par la douleur. Bon, ça y est. Grâce au dossier monté par le couple éploré, la compagnie d'assurance a fini par évaluer le sinistre. Elle pense qu'il y en a pour 700 000 francs, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 euros. Somme qui revient évidemment à la seule héritière, Samantha. Sauf si c'est elle qui a fait le coup. Le 14 juin, 2 semaines après la tuerie, les gendarmes commencent par interpeller son mari, Eric Bruyas, et ils le placent en garde à vue.
Bien. Vous pouvez nous donner votre emploi du temps, monsieur Bruyas, le 31 mai.
Ben oui, bien sûr. Je me suis levé très tôt ce jour-là, vers 5h du matin. Je suis allé travailler à mon atelier. Ensuite, vers 7h30, j'ai fait une pause pour aller faire une course à Givors. Et là, sur la route, je suis tombé sur ma belle-mère. Elle rentrait de l'hôpital, quoi. Elle était avec une collègue. Et du coup, elle m'a proposé de venir boire le café.
Et vous y êtes allé?
Oui, je suis resté 1 heure à peu près jusqu'à 8h30.
Et après?
Mais après, je suis rentré dans mon atelier, quoi. Interné.
Il dit qu'à midi, il est rentré déjeuner avec sa femme et ses enfants, et qu'il a passé l'après-midi à son atelier, jusqu'à 6h30.
Et à 6h30, monsieur Bruyas, qu'est-ce que vous avez fait?
Je suis allé boire un verre avec mon oncle, à Chasse-sur-Rhône. Il y a plein de gens qui nous ont vus, hein. Vous pouvez vérifier.
Donc, au moment de l'incendie, il a un alibi. Pendant la première journée de garde à vue, les gendarmes n'en tirent rien de plus. Alors au bout de 24 heures, ils vont chercher sa femme, Samantha, la survivante. Et ils la collent à son tour en garde à vue.
Ben, moi, je suis resté à la maison, à Givors. J'ai emmené les enfants à l'école et puis je suis rentré préparer le repas. Et après, je suis resté chez moi.
Pendant ce temps-là, son mari, Eric Bruyas, attaque sa 2e journée de garde à vue. Les gendarmes ont 2 ou 3 biscuits Alors il les pose sur la table.
On a retrouvé ça chez vous, monsieur Boyaz. C'est un croquis que vous avez fait manifestement à la main. D'une 22 long rifle démonté. Un commentaire?
Moi, j'ai jamais eu de 22 long rifle, moi, jamais.
Vous vous intéressez aux armes, pourtant, monsieur Boyaz. On a trouvé cette revue. Cette revue sur les armes, chez vous.
Mais j'ai jamais eu d'armes, hein. J'ai jamais eu de 22 long rifle. Il ment. Un de ses amis révélera plus tard qu'il a bien acheté une 22 long rifle et qu'il l'a même équipée d'un silencieux. Mais là, les gendarmes abattent une dernière carte. Une photo des trois jerrycans d'essence retrouvés à l'intérieur de la maison.
Vous connaissez ces trois jerrycans, monsieur Bruyas?
Et là, Éric Bruyas blêmit.
Je vous ai pas dit toute la vérité. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Le 31, en fin d'après-midi, je suis passé chez mes beaux-parents. C'était pour nettoyer la chaudière. Et donc pour ça, j'avais apporté trois bidons d'essence, quoi. J'ai frappé, personne m'a ouvert. Alors, j'ai poussé la porte et je suis rentré et là, dans l'entrée, je suis tombé sur le cadavre d'Aline. Elle baignait dans son sang. Et ensuite, j'ai découvert les autres cadavres. Et là, j'ai été pris de panique, quoi. J'ai pensé au choc que ça serait pour Samantha. J'ai voulu la préserver. Alors, j'ai mis le feu, quoi. J'ai mis les trois bidons dans le couloir. J'ai coupé une bougie en trois. J'ai collé un bout sur chaque bidon. J'ai allumé. Je suis parti, quoi.
Eh ben voilà, il n'a pas encore avoué qu'il les avait tués, mais la garde à vue est terminée. Le gendarme estime qu'il y a largement de quoi le renvoyer devant le juge d'instruction. Il finira de lui raconter son histoire. Sauf que devant le juge, Éric Bruyas raconte une autre histoire. Une histoire absolument rocambolesque. Il dit maintenant que quand il arrive devant la maison des Bébiens, il tombe sur un homme armé d'une carabine 22 long rifle.
Il m'a dit qu'il s'appelait Amar. Véridique, hein. Et donc je suis arrivé à le désarmer, et là je me suis rendu compte qu'il avait tué tout le monde, quoi. Alors je l'ai assommé, et je l'ai mis dans le coffre de ma voiture, et moi je l'ai amené dans un coin isolé près du Rhône. Et là je l'ai attaché, et je suis parti. Et je suis revenu le voir le lendemain matin, et je l'ai abattu, quoi.
Et où est le corps?
Je l'ai jeté dans le Rhône. Et l'arme avec.
Vous y croyez? Le juge non plus, je vous rassure. Et il le met en examen pour un quadruple assassinat. Et il l'envoie en prison. Et elle alors? Samantha, elle va suivre? Elle est sa complice? Eh bien non, elle n'était pas au courant. Elle tombe de haut, je peux vous le dire, et elle a l'air sincère, vraiment sincère. Non seulement elle n'a plus ses parents, ni son frère, ni sa sœur, mais c'est sans doute son mari qui les a tués. Elle est anéantie. On va quand même pas l'envoyer en prison à cause d'une mini-jupe. Au cours de l'enquête, Éric Bruyas s'est interrogé à plusieurs reprises. Et sur sa première, et sur sa deuxième version. Ça dure des plombes. Il n'y a rien à en tirer.
De toute façon, la vérité, je la dirai jamais. Personne ne la saura jamais.
Un jour, néanmoins, il emmène les gendarmes au bord du Rhône, là où il prétend avoir jeté le cadavre du fameux Amar. On envoie des plongeurs. Et il remonte la 22 long rifle. Et un bleu de travail.
Il est à vous, ce bleu de travail, monsieur Bruyas? Ouais, il est à moi. Je l'ai jeté parce que je me suis dit que dessus, il y avait des traces de sang et de poudre, quoi.
Mais le bleu de travail a séjourné trop longtemps dans l'eau, et dessus, on ne retrouve rien. À un moment donné, Éric Bruyas sert au juge une troisième version. encore plus extravagantes. Des truands lyonnais auraient exigé de lui qu'il leur fabrique des silencieux. Et oui, il est dans la ferronnerie.
Et moi, ben, j'ai refusé, quoi. Alors, ben, ils ont menacé de tuer toute ma famille. Et le 30 mai, ben, ils m'ont fait monter de force dans leur voiture. Et ils m'ont amené à Saint-Andéol. Là, ils m'ont laissé dans la voiture. Ils sont rentrés dans la maison. Et j'ai entendu des bruits. Moi, sur le moment, j'ai cru que c'était des portes qui claquaient, mais ben, c'était sans doute des détonations, quoi.
Vous n'y croyez pas non plus, hein? Il est dans une sorte de fuite en avant. Il invente des histoires à dormir debout parce qu'il ne veut pas avouer, parce qu'il ne peut pas avouer en vérité. Il a dit au psychiatre qui est venu l'expertiser une phrase très intéressante. Quand on avoue, on se pend. C'est un narcissique. Il a une haute opinion de lui-même. Il était tellement attaché à sa réussite. S'il avoue, tout s'effondre. Il s'effondre. Et lui, il est trop important pour s'effondrer. Et le mobile, alors? Eh bien, sans doute lié à cette volonté de réussite. Ça ne marchait pas, son affaire de portail. Il n'aurait jamais pu rembourser son beau-père. Alors, en le tuant, il efface l'addition, et Samantha hérite. Et il pourra peut-être s'acheter la BMW dont il parle si souvent et qu'on ne voit jamais arriver. Jusqu'au bout de l'instruction, Éric Bruyas s'accroche à son improbable troisième version. Un gang de Lyonnais qui, pour le forcer à fabriquer des silencieux, aurait liquidé les Puybiens. Et en attendant le procès, pour le défendre, il trouve une alliée. Sa mère qui pourtant ne l'a pas élevée, qui s'est carapatée, mais qui réapparaît à son service en février 1996, dans l'émission de Jacques Pradel sur TF1, témoin numéro 1. Elle cherche des gens qui auraient vu son fils avec le fameux gang de Lyonnais.
Je demande, est-ce que quelqu'un a vu cette 405 blanche? Nous ne reconnaissons pas l'immatriculation, bien sûr. Et surtout, est-ce que quelqu'un a vu Eric avec les trois hommes?
Mais personne n'appelle. Personne. Dans l'émission, c'est une première. Personne ne croit à son histoire. Personne. Le procès d'Éric Bruyas s'ouvre le 18 octobre 1999 devant la cour d'assises de Lyon. Et évidemment, la présidente et l'avocat général n'ont qu'une idée en tête, le faire avouer au cours des audiences. Alors ils le cuisinent, ils le prennent par les sentiments.
Monsieur Bruyas, vous devez dire la vérité, à Samantha, au moins à elle. Je vous dirai rien.
L'avocat général lui explique alors gentiment qu'à ce rythme, il va droit dans le mur.
Je préfère me taire et payer les conséquences de mon silence parce que je veux protéger ma famille.
Il n'avouera pas. C'est une question de survie. Souvenez-vous, quand on avoue, on se pend. À la fin, l'avocat général demande perpétuité assortie de 22 années de sûreté. Et maintenant, la parole est à l'avocat d'Éric Bruyas, maître Jacques Raffali. Sa tâche n'est pas facile.
Je ne vous demande pas pardon. Au nom d'Éric Bruyas, il ne le peut pas. Je vous demande la pitié.
Et au terme des délibérés, Éric Bruyas est condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et il est toujours en prison aujourd'hui. Arrêté en 1995, il était libérable depuis 2017. Mais à mon avis, il n'est pas prêt de sortir parce que les commissions d'application des peines n'aiment pas les condamnés qui s'entêtent à nier. Or lui, eh ben il n'a pas bougé. Il est innocent, c'est un gang de Lyonnais qui les a tués. Et d'ailleurs en 2011, il a déposé une demande de révision qui lui a été refusé. Mais il est dans sa logique. S'il avoue, il se pend.
passionnante histoire criminelle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur
europe1.fr. Avec l'un des protagonistes de l'histoire, maître Frédéric Laliard, vous étiez dans cette affaire l'avocat de Samantha, donc avocat de la partie civile. Un mot peut-être d'abord sur elle, maître. Elle a été, j'ai insisté là-dessus, et s'il faut je le redis maintenant, totalement blanchie par l'instruction. Est-ce qu'à un moment du procès, néanmoins, il a été question de la réimpliquer ?
Non, à aucun moment il a été question de l'impliquer dans cette affaire, parce que les enquêteurs avaient fermé toutes les portes la concernant, dans la mesure où elle avait quand même, lors de cette journée, tout au long de cette journée, puisqu'on sait que les quatre assassinats ont eu lieu sur une durée assez longue au cours de la journée, elle avait des moments de la journée où elle pouvait démontrer qu'elle était à d'autres endroits et qu'elle n'avait eu connaissance d'absolument aucun élément de cette affaire.
Elle est naïve, Samantha ?
Oui, sans doute. C'est une jeune femme à l'époque, avec une certaine immaturité, qui a toujours pleinement fait confiance à son mari, qui s'occupait pas forcément d'ailleurs du quotidien, de l'argent, c'était lui qui gérait tout ça, elle s'occupait des enfants et de son foyer, et sans doute, vous avez raison, il y a une certaine naïveté chez cette jeune femme.
À aucun moment, elle, au début de l'enquête, elle ne soupçonne son mari. Ce sont les gendarmes qui lui apprennent qu'il est probablement l'auteur des quatre meurtres.
Tout à fait, à aucun moment, elle ne peut imaginer son mari impliqué dans cette affaire. C'est son amour de jeunesse, ils se connaissent très tôt, ils ont tout vécu ensemble, ils auront trois enfants tous les deux. Elle ne peut pas imaginer à un seul instant eh bien, que son mari puisse être impliqué dans cette affaire, dans ce drame.
La scène de la mini-jupe aux obsèques qui a failli lui coûter une incarcération, une mise en examen, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus à l'époque ?
Alors c'est sûr, on rejoint un petit peu cette naïveté dont on parlait il y a quelques instants. C'est quelqu'un qui ne se soucie que très peu du regard des autres. Elle est un petit peu dans sa bulle, et ce d'autant à cette époque où il faut quand même imaginer que toute sa famille a disparu et de manière brutale et violente. Il y a une enquête qui est en cours, mais elle est dans sa bulle. Sa mère lui avait dit que à ses obsèques, lorsque elle décéderait, elle voulait que ce soit quelque chose finalement de pas si triste que cela. Elle lui avait dit, par exemple, continue à t'habiller comme tu as l'habitude de t'habiller. Il n'y a pas de raison que parce que je suis plus là, eh bien, lors de mes obsèques, tu ne continues pas à t'habiller normalement. Et elle ne va pas plus réfléchir que cela aux conséquences et au fait qu'évidemment tous les yeux sont braqués sur elle, notamment lors de ses obsèques. Et elle va s'habiller comme elle l'entend, sans se soucier du regard des autres.
Alors lui, évidemment, on s'interroge sur son mobile. Il ne nous a pas donné d'explication, puisqu'il n'a pas à avouer. Il y a un motif financier qui est évident. Ne pas rembourser ce que lui a prêté son beau-père et profiter de l'héritage que sa femme va toucher.
Oui, le seul mobile qui reste à l'issue de cette enquête qui a duré plusieurs années, c'est le mobile de l'argent, parce que il y en a aucun autre qui résiste à cette enquête, qui peut paraître presque anecdotique, puisque on le disait, c'est 700 000 francs que Samantha aurait perçu dans le cadre de cet héritage, c'est 30 000 francs
plus 30 000 francs de dette.
C'est ça, qu'il n'aurait plus à rembourser à son beau-père. Quadruple assassinat, pour cela, ça peut paraître rien du tout. Pourtant, j'ai la conviction, après toutes ces années d'enquête, eh bien que véritablement, c'est la seule explication qui puisse exister, c'est l'argent, et uniquement l'argent pour Éric Bruyas.
Et pourtant, ces gens-là l'aimaient. On dit que le père Bébien considérait Éric Bruyas un peu comme son deuxième fils. C'est pas des sornettes, ça.
C'est vrai. Vous savez, deux jours avant les faits, toute la famille, comme souvent on se retrouvait au domicile des parents, toute la famille Bruyas, on fêtait la fête des mères de la maman. Toute la famille est là et l'on voit sur une vidéo Éric Bruyas prendre sa belle-mère dans ses bras, discuter avec son beau-père comme un fils le ferait avec son père. Et c'est vrai que la famille Bébien a toujours considéré Éric Bruyas comme un second fils. C'est d'autant plus surprenant, et c'est aussi ce qui explique que Samantha Bébien à aucun moment n'a pu imaginer que son mari pourrait agir de la sorte.
En même temps, Éric Bruyas, lui, il a une vraie fragilité. Son père était alcoolique, sa mère s'est carapatée. Il a vécu une enfance douloureuse.
C'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va s'attacher à ses beaux-parents et que eux aussi vont être très proches de lui, parce que Éric Bruyas finalement n'a pas vécu avec cet amour de ses parents, et c'est ce qui expliquera que tout de suite, dès le début de la relation avec Samantha, eh bien, il va entrer dans cette famille comme un fils l'aurait fait, et l'amour qui va être porté par les beaux-parents à ce garçon va être très important. Et c'est vrai aussi pour les frères et sœurs de Samantha, le beau-frère et la belle-sœur d'Éric Bruyas, qui vont adopter Éric Bruyas et qui va être pour le garçon eh bien le parrain d'un des enfants d'Éric Bruyas et de Samantha. La petite Aline sera la marraine d'un autre enfant. Vraiment une famille très soudée.
Alors ce qui est fascinant évidemment dans cette histoire, c'est son refus d'avouer. Son refus ou son impossibilité d'avouer, parce que, nous dit le psy, il est tellement narcissique que avouer, ça serait s'effondrer, ça serait se déliter, finalement ça serait se suicider. Est-ce que ça vous convainc comme explication?
Oui, je crois que on ne peut avoir que cela comme explication, cette impossibilité pour lui, c'est-à-dire qu'on est même au-delà de la volonté de cacher la vérité. C'est impossible véritablement pour lui de dire la vérité, et je puis vous dire que tout au long de l'enquête, parce que les demandes de mise en liberté auront été nombreuses du côté d'Éric Bruyas, que dans le cours du procès devant la cour d'assises du Rhône, chacun s'est employé à essayer sur un ton agressif, en jouant sur les enfants, ses propres enfants, pour essayer de lui demander de dire la vérité. C'était si important, et ses versions étaient si fantaisistes que ça paraissait aller de soi. Et à aucun moment il va craquer, jamais il va craquer. Et je vois pas d'autres explications qui permettent d'imaginer ce déni permanent, parce que encore aujourd'hui, hein, on n'est plus de 20 ans après les faits, 25 ans après les faits bientôt, eh bien, il est toujours dans l'impossibilité d'avouer, de reconnaître, d'assumer les faits qu'il a commis.
Il a vraiment déposé une demande de révision.
Il a déposé une demande de révision. Il a déposé 3 demandes d'aménagement de peine de conditionnel, puisqu'il en a le droit au regard.
Il a effectué les 22 années de sûreté. Oui.
C'est ça. Donc il est en capacité juridique de solliciter une conditionnelle, une demande de conditionnelle, refusée à chaque fois, parce que les experts psychiatres qui doivent se pencher sur ce type de détenu, évidemment, compte tenu de la peine prononcée avant qu'une sortie puisse être accordée par un tribunal d'application des peines, eh bien, les experts sont très, très, très pessimistes sur la suite, puisque c'est un homme
qui continue à nier. Parce qu'il est dans le déni.
Exactement, exactement.
Vous êtes consulté d'ailleurs, enfin vous, Samantha est consultée à travers vous à chacune de ces demandes de libération conditionnelle?
Tout à fait, c'est la loi. En cette matière, lorsque une personne détenue sollicite ce type de demande d'aménagement, la partie civile a la possibilité, c'est une faculté, elle n'est pas obligée de le faire, mais a la possibilité de donner son avis sur cette libération. Et Samantha, à travers son avocat, à travers moi, eh bien, exprime à chaque fois, eh bien, par écrit, la peur. Évidemment, la crainte qu'elle a de voir son ex-époux, puisqu'elle est évidemment divorcée depuis maintenant de nombreuses années, voir son ex-époux recouvrer la liberté, notamment parce qu'il va dire qu'il n'a rien fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'inquiétant. Ça peut laisser à penser qu'il pourrait y avoir réitération quand on n'assume pas, quand on ne s'est jamais posé les questions, quand on n'a jamais vu de psychologue, de psychiatre, pour essayer d'exprimer les choses, d'expliquer, d'avouer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est effrayant, et Samantha évidemment, ne souhaite pas voir Éric Bruyas recouvrer la liberté.
Merci beaucoup, maître Frédéric Laliard, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs, parce que c'est une vieille affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.